RNV Podcast.
Voyage, voyage.
RNV.
Et bienvenue dans un nouveau voyage, voyage. Je suis bien sûr avec Françoise. Salut Françoise.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Mais bien, il fait beau. Le muguet fleurit, ça sent bon. Le printemps est là.
C'est vrai, on est presque en été même côté température. Et puis ça tombe bien parce que tu vas nous emmener au sud, même si c'est dans des terres où il ne fait pas si chaud que ça, finalement, dans les îles Canaries.
Alors, ça dépend de la saison, évidemment. Là, je vais évoquer un séjour que j'ai fait au mois de janvier de cette année.
Donc, des températures tout à fait agréables.
Alors, la journée, bien sûr, il a fait jusqu'à 20 degrés. Mais la nuit, comme les côtes africaines ne sont qu'à 100 km, elle est africaine, c'est-à-dire fraîche.
Fraîche, mais ça reste pas trop froid.
Pas moins que chez nous.
Ouais, on est bien d'accord, surtout au mois de janvier. Alors, les Canaries, évidemment, c'est des îles qui sont extrêmement populaires, extrêmement touristiques, mais ça dépend un peu où on va.
Alors, il y en a 7, toutes volcaniques, certaines plus que d'autres d'ailleurs, et nous avons choisi Lanzarote parce que je suis partie avec mes amis aquarellistes, attirée par les paysages qu'on a observés sur Internet, évidemment. On n'a pas trop creusé, l'intérêt. Et on a fait des découvertes absolument incroyables.
Oui, d'ailleurs, tu me disais, ce n'était pas forcément l'idée de partir spécifiquement là-bas, mais tu es tombé sur Internet sur des vignes un peu particulières. Et puis, en cherchant un peu, eh bien, c'était à Lanzarote.
C'est ça. Ils cultivent leurs vignes pour les préserver du vent et pour aller chercher évidemment les terres nourricières dans des petits creux protégés par des murs de pierre de lave. Et donc ça fait des champs de vignes où on voit des cercles presque complets qui peuvent s'étaler à l'infini. Et quand la vigne est comme ça vert tendre, on a vu ça au début de l'hiver là, ben, ça fait du vert tendre avec du gris de la lave dans ces cercles. C'est un paysage absolument fabuleux, quoi.
Parce qu'effectivement, la particularité de Lanzarote, c'est qu'elle est restée extrêmement volcanique.
Ben, complètement. Ils ont préservé les paysages. Tout ça grâce surtout à l'intervention d'un certain César Manrique, dont j'ignorais l'existence avant d'atterrir sur l'île. Donc on a loué une petite maison avec une vue époustouflante et c'est le propriétaire de la maison à notre arrivée qui nous a parlé de lui parce qu'on a tout de suite remarqué effectivement qu'en tout cas le côté où on était avait l'air extrêmement préservé. Et il nous a mentionné cet homme en nous donnant une liste d'endroits à aller voir absolument qui sont son œuvre. Donc César Manrique est un artiste originaire de Lanzarote.
Oui.
Qui est parti sur d'abord la terre espagnole et ensuite à New York dans les années 50-60. Et puis, il en a eu marre de cette vie de grande métropole et il a souhaité rentrer dans son île natale, mais avec un projet qui était celui de la préserver. Parce qu'il a été horrifié de voir le développement bétonnier des îles voisines, alors qu'il était complètement anarchique. On a tous en tête les images de Las Palmas, ce tourisme de masse.
Et presque voilà. Des bords de mer en général d'ailleurs, qui sont souvent ultra bétonnés, avec des hôtels partout, des horreurs quoi.
Alors ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, c'est assez contenu quand même encore. Il est décédé en 1994, César Manrique. Mais il avait réussi 20 ans avant à faire classer l'île parc national et l'UNESCO l'a reconnu comme biosphère d'importance mondiale parce qu'elle est particulièrement préservée. Alors, on n'est pas trop allé, mais il y a quand même une ou deux petites villes qui sont pas mal développées, mais jamais dans la mesure de Las Palmas, par exemple.
Parce qu'il faut dire qu'il a été vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire que tu me racontais que sa première maison, il l'a faite dans des bulles de lave.
Oui. Alors, quand il est revenu, il a souhaité s'établir et puis il a cherché un endroit à construire une maison. Alors, il a commencé à prospecter. Les dernières éruptions ont eu lieu dans l'île vers 1830.
Environ 200 ans.
Voilà, donc il arrive dans un champ où il voit un petit figuier, tout petit, donc il y a de la vie. Et il décide que c'est un signe. Il va s'enquérir du propriétaire des lieux, qui a jamais pensé qu'un jour quelqu'un viendrait pour lui demander d'acheter un champ de lin, hein. Puis il a dit, ben voilà, j'aimerais faire une maison, est-ce que je peux vous acheter le terrain? Oui, bien sûr, puis prenez tout, parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux en faire?
Bien sûr.
Et après, il est allé évidemment voir comment il pouvait construire sa maison. Et avec les personnes avec qui il s'est associé, ils ont vu qu'il pouvait construire des pièces dont des bulles de lave.
C'est incroyable ça quand même.
C'est fou, hein?
Oui.
Et donc, je t'ai montré des photos, hein. Y a toujours un tunnel de lumière. Et puis, on met un palmier au milieu. Mais c'est une maison inouïe qu'il a donnée de son vivant. Il en a fait une fondation parce qu'il avait le souci, évidemment, de ce qui allait arriver après son décès. Et cette fondation, tous les bénéfices qu'elle fait, ils organisent des expositions, des concerts, des événements. Tout va dans le fonctionnement des buts de la fondation, dans le fond, qui est celui de la préservation de la nature à Lanzarote. Mmh. Donc, on a découvert avec émerveillement cet endroit. Il y avait effectivement beaucoup de renseignements sur la vie de César Manrique, et puis qui est évidemment dans un endroit délicieux, qui est bien préservé.
Et ce qui est fou, c'est qu'il s'est tellement intéressé et inquiété de la préservation de son île, on va dire d'ailleurs, pour le coup, puisque tu l'as dit tout à l'heure, il était originaire de Lanzarote à la base déjà, qu'il a lui-même aussi participé au développement de l'île, au développement touristique de l'île, mais sous certaines conditions.
Il s'est associé avec des architectes, il a dessiné aussi des maisons, dont l'idée qu'il fallait toujours que la nature et les constructions soient le plus fusionnelles possible, mmh, et ne, au contraire, mettent en exergue les lieux, ne déparent pas les paysages. Et donc, ça a donné plusieurs maisons. Il y a son fameux jardin des cactus aussi, hein.
Cactus que tu adores, n'est-ce pas?
C'est vrai que les cactus, ça n'a jamais été trop mon truc, sauf depuis que j'ai été au jardin des cactus de César Manrique. Donc, il y a une architecture circulaire. On circule dans un espèce de cercle où il a planté absolument, je crois qu'il y a plus de 200 sortes de cactus dans ce lieu. Absolument merveilleux. C'est un espèce de jardin paradisiaque. Et avec mes amis aquarellistes, on y a passé la journée en détaillant des cactus comme jamais je n'ai fait ça de ma vie, où j'ai découvert toutes les facettes possibles. C'est des petites merveilles, hein, l'air de rien.
Ouais, et puis c'est très juste de parler de facettes parce que c'est beaucoup des jeux de lumière.
Absolument, et donc on avait évidemment beaucoup de soleil. Et puis l'endroit est bien conçu pour les mettre en valeur. Il a vraiment très bien réussi cet objectif de fusionner la nature et l'environnement avec des constructions ou des jardins.
Est-ce que ces roches d'ailleurs de lave, ça amène une coloration particulière, une lumière particulière?
Ben oui, parce que il y en a de différentes couleurs, hein. Alors évidemment, il y a le gris. Tu sais que le noir, il y en a beaucoup. Mmh. Donc, on a beaucoup de nuances de gris, de noir. Et puis, on a aussi, évidemment, du brun, de l'ocre, du rouge, du violet. J'ai jamais été sur la Lune, mais j'imagine qu'ils ont tourné quand même beaucoup de films, hein. Ça sert beaucoup de décors naturels, mmh, pour des films de science-fiction, par exemple. Et puis, beaucoup de nuances, justement, de brun, d'ocre, de gris, qui jouent avec le soleil, les nuages, beaucoup de vent aussi. Ça, c'est des fois un peu difficile. C'est pour ça que, dans le fond, elle n'est pas si habitée que ça. Elle est plus habitée, mais le vent, on a subi ça 3 jours. C'est vraiment pénible. C'est comme le Mistral en France, c'est même pire, hein.
Ouais, ça souffle en permanence.
Ouf.
Bon, c'est un peu le problème des îles, souvent, évidemment, puisqu'il y a des grandes étendues d'eau et il n'y a pas grand-chose qui retient l'air.
Mm-hmm.
Est-ce que malgré tout, on sait justement que la particularité des volcans, c'est qu'ils sortent des énormes quantités de lave qui viennent tout recouvrir et qui font crever tout ce qui est nature, évidemment. La nature finit souvent par reprendre le dessus parce que, même si elle est recouverte, cette terre, les masses de sédiments et compagnie amenées par les roches sont souvent très riches.
Oui.
Mais il faut que ça ressorte. Est-ce qu'il y a quand même des endroits où la nature a réussi à reprendre un peu le dessus ?
Alors, pas au sens où nous on l'entend. Hein.
Ouais.
Nous, la nature.
Les forêts du Jura, c'est mort.
Voilà.
Ouais, d'accord.
Mais il y a quand même des endroits où on voit quand même des plantations un peu plus luxuriantes, je dirais. Mais dans l'ensemble, enfin, tout ce qu'on a traversé, visité, parcouru, tu as toujours des visions infinies de terre de lave. Et puis il y a évidemment les petites villes où il y a des retraités anglais et allemands qui se sont établis.
Of course.
Là. Of course. On est allé jeter un œil, ça faisait partie de la découverte, mais on n'est évidemment pas resté. Et puis là, alors, il y a de l'eau, des jardins, mais dans l'ensemble, non, il n'y a pas les bois du Jura à Lanzarote.
Mais quand même, il y a de la vie, et tu le disais, notamment des cactus. Est-ce qu'en termes de faune, tu as pu voir certaines choses ?
Pas trop.
Ouais.
Et j'ai le souvenir de lapins.
D'oiseaux
des
peut-être.
Chiens, non.
Même
non,
pas.
Tu vois, quand il y a peu d'arbres. Hein.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Mais je ne me suis pas spécialement intéressée à la faune, je dois dire. J'étais tellement concentrée sur les paysages et puis la mer aussi, évidemment, qui était assez proche de notre petite maison. Et puis le dessin, on n'a pas spécialement cherché les animaux, j'avoue.
En termes de dessin, justement, ça permet des nuances qui sont presque infinies, tellement, justement, ces roches ont des couleurs variées.
Ah ben, c'est un plaisir, surtout que, moi, j'aime bien faire les paysages, tu vois. Et puis, avec le bleu de la mer, c'est juste... j'aurais pu en faire 10 par jour, mais j'ai aussi un peu médité dessus, tu vois. Ça appelait à une certaine élévation, je dirais, spirituelle. J'ai pas dessiné à tout prix. J'en ai choisi quelques-uns, comme je t'ai montré. Et puis j'ai passé l'après-midi dessus, on va dire. En en profitant bien.
D'ailleurs, la chose qui m'a quand même fait rire quand tu m'as montré ton carnet de voyage, c'est que vous êtes parti là-bas pour aller voir des vignes que tu as décidé de ne pas dessiner.
Oui. C'était un peu, tu sais, le truc trop facile, quoi. Non, d'autres sujets m'ont appelé, voilà. Le graphisme des vignes m'a appelé sur photo à Lanzarote. Et après, ce sont ces paysages volcaniques qui m'ont inspiré. Et les cactus.
Et puis quand même l'art, puisque bien sûr avec ce bienfaiteur qui lui-même était un grand créateur, eh bien on note que les structures bien spécifiques et géométriques de ces vignes t'ont amené à un artiste à proprement parler.
Voilà, donc César Manriquet, sa première maison, il l'a donc donnée de son vivant, il est décédé en 1994, et il s'est fait une autre maison plus au nord de l'île, qu'on peut aussi visiter, qu'il a aussi laissé alors, à la ville où il s'est établi, qui est vraiment une maison d'artistes magnifique. Et on voit que le monde entier passait par là. Hein.
Mm-hmm.
Je t'ai raconté aussi l'anecdote savoureuse d'Omar Sharif, parce qu'il recevait évidemment beaucoup d'artistes. Il y a des photos de lui dans sa maison avec Joséphine Baker, qui a aussi contribué la réputation de l'île.
Mm-hmm.
Donc Omar Sharif débarque faire un film, il tombe complètement amoureux de l'île. Et il y a un producteur, metteur en scène, qui s'y est construit une maison avec la collaboration de Manrique.
Ok.
Qu'il la lui fait visiter et Omar Sharif veut absolument l'acheter et il le fait parce qu'il veut s'établir ici. Et malheureusement, pour pas très longtemps, je crois qu'il n'y est même pas resté 2 ans, parce que on connaît les passions folles de Omar Sharif pour les chevaux et le jeu. Et il a perdu cette maison au bridge contre son ancien propriétaire qu'il a ainsi récupéré.
Accessoirement, qui a fait une belle opération financière pour le coup, en vendant et récupérant le bien juste derrière, c'est quand même plutôt bien joué. On parlait de patrimoine, on parlait tout à l'heure d'art. Bien sûr, le patrimoine et l'art, c'est aussi la musique. La musique, justement, je crois qu'elle t'a un peu marqué quand même dans la région aussi.
Alors, c'est pas de la musique de Lanzarote. J'ai essayé d'écouter un petit peu des choses typiquement de Lanzarote. Il y a des j'aime bien la musique de la Renaissance, et puis il y a des, donc souvent la musique de la Renaissance vient de danse, et il y a des danses qui s'appellent des canarios, qui viennent donc des îles Canaries, mais après chaque île a un peu son folklore. Mmh. Qu'on utilise beaucoup pour animer les fêtes patronales. Enfin, ils ont évidemment, c'est des catholiques, donc ils ont des fêtes très liées aux récoltes aussi. C'est vrai que j'ai fait le rapprochement Canarios, Île Canarie, et effectivement, c'est une musique à base énormément de cordes, de guitares, composées pour des guitares. Et ils ont des orchestres entiers de guitares qui animent leur danse, leur folklore, pour ces fêtes qui se font encore. Mmh. Donc j'ai choisi un très joli morceau qui date de la Renaissance d'ailleurs, et qui est Canarios, et tu verras que c'est très dansant.
C'est assez marrant d'ailleurs, parce que effectivement tu me l'as fait écouter, et je trouve que ça sent l'Espagne, ça sent pas du tout la Renaissance.
Ouais, ben écoute, on dansait aussi beaucoup... sur la terre d'Espagne.
C'est vrai, et finalement la guitare sèche, c'est aussi quelque chose qu'on a encore beaucoup dans l'oreille aujourd'hui.
Mais après, tu verras, dans toute l'Europe, les danses de cour, les gavottes, les chaconnes, les pavanes, tout ça, ça vient souvent de la cour de France. Et comme à un moment donné ou à un autre, ils s'acoquinaient avec un noble français, mmh. ça transitait comme ça, hein.
Et bien là, ça va transiter à travers les notes, bien sûr. On va terminer en musique. Merci beaucoup, Françoise.
Merci, Yago. Très bon mois.
Merci,
Paris. À bientôt.
Thank you.
www.radionv.ch. www.radionv.ch.